J'aime bien voyager avec un petit ami. Alors, j'ai amené avec moi un ami. C'est un des meilleurs amis de l'être humain. Son amitié pour l'homme est assez exemplaire. L'être humain ne le lui rend pas toujours, mais cet ami, il accomplit des performances assez extraordinaires. Il est d'une technologie incroyable et d'avant-garde. L'homme ne le considère pas toujours, ne le respecte pas, pensant qu'il est inutile et uniquement décoratif. C'est un être intelligent, vivant, qui est issu d'une petite graine. Il a un programme à l'intérieur, figurez-vous. Il est programmé pour avoir une longue vie, pour faire des fruits, etc. Il travaille tous les jours. Il capture du CO2, qui est très nuisible, et quand il est en grande quantité. Et puis en plus, il produit de l'oxygène, qui nous est indispensable pour vivre. Chaque être humain respire chaque jour l'équivalent de ce que produisent en oxygène 10 arbres. C'est vous dire quand même. Il n'est pas seulement décoratif, quoi. En plus, j'aime dire que c'est un peu mon climatiseur préféré. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque de climatiseur. C'est le modèle de climatiseur le plus efficace, le plus durable, le moins cher au monde. Aucune consommation énergétique. Il ne produit aucun déchet parce que tout ce qui tombe se recycle. Il ne tombe jamais en panne, quasiment. De temps en temps, il faut lui donner un petit coup à boire, etc. Je sais très bien que dans nos maisons, nous avons maintenant des climatiseurs, pour ceux qui en ont. Ils sont quelquefois indispensables, utiles. Sauf que s'ils peuvent rafraîchir la température de la pièce à l'intérieur, à l'extérieur, ils les font pour réchauffer et que renforcer le problème. C'est un médicament qui, en fait, est remède et poison. Donc, à nous de réfléchir. En plus, plus on coupe d'arbres, plus la qualité de l'air, eh ben, est compromise. Je vous signale que l'OMS déclare que la qualité de l'air aujourd'hui dans le monde est responsable de 2,5 millions de morts par an. C'est vous dire. La qualité de l'air devient un véritable problème planétaire. Aucun technicien au monde ne réussit à expliquer comment un arbre est capable d'épuiser ses ressources dans la terre, les transformer en sève et les faire monter jusqu'à la dernière feuille de sa dernière branche. Là, c'est pas impressionnant parce que c'est un bébé arbre, mais quand il s'agit d'un arbre de 30 ou 50 mètres, comment fait-il, quoi? À nous donc, voilà, de considérer cet ami à sa juste place. Et si vous voulez faire de la publicité pour les climatiseurs, de la marque. Plantons des arbres. Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons là ce soir? Peut-être nous sommes là parce que nous cherchons à mieux faire, simplement. Parce que nous sommes dans un monde désaccordé qui cherche son accord. Nous sommes des chercheurs d'accord. Dans un monde désaccordé, des chercheurs de non-violence, par exemple. Dans un monde que l'on dit et qui est effectivement souvent, qui nous apparaît comme un monde de violence. Suraccordé à soi, à notre nature, la nôtre, au vivant. Qui est là. Notre ami philosophe Abdennour Midar, il dit que la crise racine, c'est une crise de désaccord. Il faut réinventer l'accord. L'accord avec soi-même, avec notre nature profonde, l'accord avec notre santé émotionnelle, notre santé relationnelle et l'accord avec le vivant dont nous dépendons. Mais souvent, il est vrai, nous sommes rattrapés par notre mafia intérieure, nos peurs. Nos sentiments d'impuissance, par la fatalité du réel, celle de la violence, qui nous semble fatale, immense, etc. Il est vrai que le système actuel, il est redoutable. Il a une force première, il peut nous décourager. Il nous isole, il nous sépare. Et Sa Majesté violence n'est jamais très loin. Quand elle débarque toujours avec des caméras. Sa capacité à fasciner, à prendre le pouvoir, elle nous hypnotise, elle nous paralyse. Quand la violence est là, vous savez, c'est comme la goutte de grenadine dans le tonneau d'eau. Toute l'eau est contaminée. Comment résister à tout ça et comment agir? Je n'ai pas vraiment d'appréhension à venir vous parler de non-violence. J'ai juste un peu peur de ne pas être assez contagieux. Comment mieux donner justement une place à cette boussole, à la transmettre, à l'offrir à chacun, parce que tout le monde y a droit. Khalil Gibran dit, ce que je te dis n'est que la moitié de la vérité. Mais je te l'ai dit, pour qu'ensemble, nous cherchions la deuxième moitié. C'est un peu ça l'esprit de ce moment. Alors, une première idée me vient à l'esprit. Vous savez, Aaron Antonovsky, c'est un professeur de sociologie qui est considéré comme le père fondateur de ce qu'on appelle la salutogénèse. Qu'est-ce qui fait la santé d'un être humain, d'une société? Il a formulé ce concept contrairement à la pathogénèse habituelle, hein, qui ne porte son regard que sur la maladie. On nous diffuse des reportages sur la violence, par exemple, des chiffres, etc., qui nous assomment, etc. Et lui dit, la salutogénèse, occupons-nous des facteurs de bonne santé. Alors pour énoncer ces facteurs de la bonne santé, il en a repéré trois. Il a dit, premier facteur de bonne santé, il faut comprendre son monde. Dans quel monde nous sommes ? Comprendre son monde au-delà de la vitrine qu'on nous présente. D'accord. Alors bien sûr, très souvent, on va nous dire, mais vous n'êtes pas expert, comment voulez-vous comprendre le monde ? On n'est pas... C'est d'ailleurs une sorte de démophobie rampante, un mépris du peuple incroyable. Nous ne sommes pas des experts, nous sommes des experts de ce que nous vivons. D'accord. Première condition, il faut comprendre son monde. Mais généralement, on vous dira, vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'êtes pas assez... Deuxième condition, on peut transformer son monde. On peut changer quelque chose. On peut influencer. Troisième condition, il faut que ce que l'on fait ait du sens. Si ce que nous faisons a du sens, notre énergie est décuplée. Mais très souvent, nous ne voyons pas le sens. Nous accomplissons une tâche dont nous ne voyons pas le sens. Des boulots dont tu ne perçois pas le sens. Ce qu'on appelle les bullshit jobs, quoi. C'est-à-dire, je travaille, mais je fais un travail de merde pour gagner ma vie. Je n'ai pas envie de me lever le matin. Ce sont les trois conditions de la salutogénèse. Comprendre son monde. On peut transformer son monde. Le moteur, c'est le sens. Pas seulement gagner sa vie, quoi. Et si possible, peut-être avec le sens, voir quelque chose de plus grand. L'engagement, par exemple, pour le commun, pour les autres, qui est extrêmement gratifiant pour la personnalité et pour l'équilibre. Oui, la non-violence est une inconnue, une illustre inconnue, une dénigrée, une stratégie dénoncée très souvent de bisounours. C'est une lettre au Père Noël, autre histoire. Avec des préjugés de passivité, non-violent, moi je suis tranquille, je suis pour la paix. De résignation, de faiblesse. Si vous n'êtes pas violente, c'est parce que vous êtes des lâches. C'est pour ça que vous n'êtes pas violent. Vous n'avez pas le courage. Ok. Inefficacité. Reconnaissez quand même qu'un Corse qui parle de non-violence, c'est un peu canal inattendu, non ? Quand on demande quelquefois à des élèves dans un collège, que signifie pour vous le mot non-violence ? Quand on leur pose la question, aux juniors, quelquefois même aux adultes, les collégiens répondent, la non-violence, monsieur, c'est un truc qui n'existe pas. C'est un rêve qui n'existe pas. Il n'y a que les bébés qui sont non-violents. Après, on devient tous violents. J'ai entendu ça tant de fois. Si ce sont des enfants, des collégiens, qui ont déjà, à qui on en a déjà fait avaler ce mensonge, on comprend que le terrain n'est pas facile. Hein. Déjà, t'as déjà appris ça, toi. Ah oui, monsieur, la tendance. Et pourtant, si un enfant de 8 ans assiste à une scène violente, là, devant, à l'entrée de cette salle, entre deux individus, une bagarre, etc., il va revenir ici avec une pulsation cardiaque à 180. Il a vu quelque chose qui l'a frappé, qui l'a choqué. Son corps exprime par une réaction strictement biologique quelque chose qu'il vient de vivre. Oh, il y a deux personnes qui se voient là. Si la violence était notre nature, est-ce que vous croyez qu'il serait à ce point bouleversé ? Pas du tout. Là, il est déséquilibré dans sa biologie même. Il est dysrégulé, il est en alerte. Je viens de voir un truc là, c'est pas normal. Je suis bouleversé. En fait, donc, nous parlerions de choses qui n'existeraient pas. La non-violence. C'est bien pour ça que le chantier est exact. J'adore parler des choses qui n'existent pas et qui sont pourtant inscrites dans notre disque dur, dans notre nature même. Les neurosciences, qui ont fait beaucoup de découvertes ces dernières décennies, nous éclairent profondément à ce sujet. Je vous jure qu'elles nous apportent un encouragement incroyable. Les neurosciences, elles nous renseignent dans tous les pays du monde, tant de chercheurs nous éclairent de mieux en mieux sur ce point. Ils nous disent, la nature humaine, c'est une nature coopérative, compassionnelle, altruiste, empathique. C'est ce qui est inscrit dans notre disque dur. Toutes les recherches en neurosciences dans le monde le démontrent. Je fais référence ici en particulier à un grand neuroscientifique allemand qui s'appelle Joachim Bauer. Il nous dit d'abord, l'être humain, il a une inequality aversion. Nous avons une aversion instinctive à l'inégalité, à l'injustice. Vous tapez sur Internet inequality aversion, vous allez voir le nombre de recherches qui sortent. Nous avons une aversion à l'inégalité. C'est dans notre équipement neurobiologique. Nous avons besoin de coopérer, d'aider, de partager. Nous avons une aversion fondamentale à l'injustice. Okay. Nous avons un besoin de partage. Ah bon, pourtant, on nous apprend le contraire. Ah non, dans notre disque dur, c'est ça. Inequality aversion. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que nous ne sommes pas parfaitement heureux, parce que quand nous regardons le monde, même si nous, on est peut-être de là, du côté du monde le mieux loti, dirais-je, on se rend bien compte que dans le monde entier, tout le monde n'a pas droit à son verre d'eau, son toit, sa maison, sa dignité, sa paix. C'est peut-être ça qui altère notre joie profonde. Parce que nous sommes programmés pour un monde d'égalité, de partage, de dignité. Et même si nous ne sommes pas du côté où le pire, on ressent ça. Ça altère notre joie profonde. Deuxième chose, et les neurosciences nous disent, nous avons un cerveau, un social brain. Nous avons un cerceau social, égalitaire. C'est ancré dans notre disque dur. Le désir d'équité est une impulsion humaine fondamentale. C'est le comportement coopératif, empathique qui est inscrit en nous. Troisième chose, les neurosciences nous parlent de l'exclusion. Et là, c'est assez étonnant. Le fait d'être rejeté, exclu d'une communauté, et c'est-à-dire être privé de ce besoin fondamental d'appartenance, ce qu'on appelle l'exclusion sociale, porte atteinte à notre intégrité humaine, aussi durement qu'une souffrance physique. C'est un signal d'alarme d'une même intensité pour le cerveau. Quand je suis exclu socialement, c'est de même intensité qu'une menace physique, une menace de mort. Ne pas être accueilli, ne pas être reçu, ne pas appartenir, ne pas avoir sa place, est vécu par notre cerveau de la même intensité qu'une menace, physique. Joachim Bauer nous dit, dans cette situation-là, nous sommes en situation de douleur limite. Je suis exclu, je suis en douleur limite. Ne pas être voulu est plus dur qu'une persécution, nous dit Bauer. Plus grave qu'une atteinte à notre corps. Il a prouvé d'ailleurs, il a commencé ses recherches dans les années 90. Vous savez, il y avait en Allemagne, à cette époque, il y avait des tueries assez fréquentes dans les écoles, dans les collèges. Et toutes ces recherches ont démontré que les individus qui étaient impliqués étaient tous en situation d'exclusion, de rupture, d'isolement, de détresse du système, très souvent invisible. Quand on interrogeait l'entourage, ils disaient « Non, mais il m'avait l'air très bien, il était… » Oui, bien sûr, en apparence. Il y a des blessures qui ne sont pas visibles. Ils étaient pour la majorité en situation de douleur limite. Bauer, bien sûr, ne justifie en rien ses actes. Tu es responsable de tes actes. Mais il est clair. Il explique. Il donne des clés. Et la radiographie, elle est intéressante. Je cite juste pour le bonheur de l'éclairage de cette étude-là parmi tant d'autres. Écoutez ce qu'il dit. L'exclusion par le groupe de ses semblables signifiait durant des millions d'années une condamnation à mort. Nous venons de là, quoi. Pendant des millions d'années, l'être humain exclu était comme un condamné à mort, effectivement. Comment je survis si je suis seul, dans une planète, ou etc. Le fait d'être rejeté pouvait être même plus dangereux pour un individu que la souffrance physique. Ah bon ? Ceci explique pourquoi le cerveau humain a appris à juger les deux expériences, exclusion sociale et menace de l'intégrité physique, comme deux signaux d'alarme d'une même intensité. C'est très intéressant. Par conséquent, dit-il, la réaction biologique de l'être humain face à la douleur physique infligée, mais aussi face à l'exclusion sociale, peut être l'agression, la violence, la détresse. Les neurosciences donc viennent aujourd'hui confirmer notre équipement biologique, empathie, l'appartenance qui est fondamentale. Une question que je nous pose, combien nos sociétés aujourd'hui produisent au quotidien d'individus exclus, humiliés, rejetés, qui ne trouvent pas leur place, qui sont en douleur limite. Combien de bombes à retardement? Combien de terrains favorables à toutes les détresses, aux manipulations, aux stratégies les plus tragiques? Et pourtant, nous avons les clés. Je cite juste un petit passage. Le cerveau humain n'est pas seulement un social brain, un cerveau naturellement dirigé vers la cohésion sociale. Il possède même une sorte de thermostat biologique pour percevoir l'égalité. Il a une tendance naturelle tout à fait instinctive à aspirer vers un minimum de répartition équitable des ressources. Nous devons cette structure du cerveau qui vise à favoriser la loyauté, la justice, la coopération à notre parcours évolutionnaire. Depuis la nuit des temps, les personnes vivant dans un réseau fiable et en harmonie avec leur entourage profitaient d'une espérance de vie nettement supérieure. Quand je suis dans l'égalité, dans la justice, dans le partage, etc. Le désir d'équité est une impulsion humaine fondamentale. Ça fait du bien, non? Est-ce que c'est pas de nature à réconforter tous les chercheurs de non-violence du monde, tous ceux qui cherchent un équilibre, une sérénité, les passionnés de solutions? La science confirme donc de l'ancrage en nous des fondamentaux de la non-violence. Elle confirme ce que Marshall Rosenberg, le concepteur de la communication non-violente, quand il nous dit « le plus grand besoin de l'être humain est de répondre aux besoins de l'autre ». D'ailleurs, nous sommes beaucoup plus heureux quand nous répondons aux besoins de quelqu'un d'autre que quand vous offrez quelque chose, quand vous offrez un cadeau, vous êtes plus heureux que quand vous le recevez. Les valeurs de la non-violence ne sont donc pas un corps étranger à la nature humaine, une mode, pas du tout. Elles sont gravées dans notre nature. Elles sont notre nature. Ce que nous déprime, c'est que justement, nous ne sommes plus en accord avec notre nature. Et je comprends mieux pourquoi. Quelquefois, je ne me sens pas aussi heureux que je pourrais l'être. Alors, l'empathie, on en a parlé, c'est le levain de la non-violence. L'empathie, ça fait des miracles, mais on l'ignore. Et puis, nous sommes dans un système qui nous désempathise. Dès la petite enfance. Voilà peut-être quelques pistes. Une autre piste, en tout cas, qui peut nous réaccorder avec nos valeurs, notre nature. Se connaître, connaître notre équipement. Connaître notre équipement de vie. Il faudrait peut-être lancer le slogan, vous savez, 8000 ans de mensonges sur la nature humaine. 8000 ans avec ce faux credo. L'homme serait violent par nature. Il n'y a que la violence qui paye. Il faut punir. Il faut payer les erreurs en faisant souffrir le coupable avec la meilleure conscience du monde. Non. La non-violence n'est ni une fatalité, ni notre nature. La violence n'est pas notre nature, elle est une détresse de notre système. Elle viole notre nature. Elle endommage notre nature. Comme le dit notre ami Thomas d'Aussembourg, la violence est une violation de notre nature. Comprendre son monde, vous me permettrez d'utiliser ce concept que un fameux docteur américain, un professeur américain qui s'appelle Bruce Perry, dont je vous invite à suivre les travaux sur Internet, avec je suis en relation d'ailleurs. Et je m'explique. Alors lui, il a conceptualisé ce qu'il appelle l'arbre de la régulation. L'arbre de la régulation, c'est l'arbre que nous avons tous en nous, les uns les autres, ce qui désigne un peu notre système nerveux complexe, structuré comme un arbre, qui est notre équipement biologique, qui gère notre survie, nos besoins, nos émotions, nos réactions, nos comportements, notre accès à l'intelligence. L'arbre de la régulation, chacun a le sien. Il est à l'origine de notre santé émotionnelle, relationnelle, sociale. Il faut bien sûr le consolider, le prendre en compte dès la plus petite enfance. Au début, tout le monde comprend, cet arbre de la régulation chez un nourrisson, chez un bébé, il est vulnérable, il est faible, il est fragile, il est immature, il dépend de l'extérieur. Il faut en prendre le plus grand soin. Mieux on me régule de l'extérieur, plus je vais devenir capable de m'auto-réguler. Un enfant qui pleure, c'est un enfant qui veut être régulé. Il a faim, il a froid, il pleure, sa maman, une présence, une bienveillance, le régule. C'est bon. Il apprend comme ça, au fur et à mesure, à s'auto-réguler. Les parents, l'école, la société, le quartier, si possible, le village sont théoriquement là pour que cet arbre de la régulation grandisse et se consolide dans les meilleures conditions. En tant qu'adulte aussi, mieux nous sommes régulés, mieux nous aidons à consolider l'arbre de régulation de nos enfants, de nos collègues de travail, de nos familles. Nous devenons régulateurs ou dysrégulateurs. Dans nos classes, des enfants viennent quelquefois avec des réalités où il y a des menaces, des peurs, des abus. Leur système de réponse au stress est hyperactif. Quant à leur arbre de la régulation, il est très faible. À tel point que, quand l'arbre de la régulation est faible, toute intrusion dans leur espace personnel pourrait le rendre explosif. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me regardes ? Ce n'est pas le signe que son arbre de la régulation est en très bon état, très solide. Avec ce concept, il est très intéressant de lire les comportements, de décoder, de traduire. Tous nous pouvons être régulés ou dysrégulés. Régulateurs ou dysrégulateurs, suivant les circonstances. Vous ne voyez pas mon arbre de la régulation. Je ne vois pas le vôtre. Moi, j'ai l'air tout à fait normal. Dites-toi, il est équilibré, il n'y a pas de problème. Vous avez l'air tout à fait normaux, pas de problème. J'ai l'air d'être un adulte à avoir qu'un âge émotionnel équilibré. Mais si vous prenez ma place de parking, si vous m'attaquez sur ma mère, sur ma religion, ou si vous me dites que les Corses sont susceptibles, là vous allez voir. Là vous allez voir que mon arbre de la régulation, vous allez avoir une idée dans quel état il se trouve mon arbre de la régulation. Et le vôtre aussi d'ailleurs. Parce que moi je peux vous dysréguler en 30 secondes. Et là vous allez voir comment vont réagir les uns des autres. Il y en a qui vont exploser. Ou bien il y en a qui vont, etc. Et si vous insistez, ça ne va pas s'arrêter là. Vous allez comprendre la puissance nucléaire de mon compte anonyme Apollo 14. Je vais vous insulter quand je pars d'ici. Ok. Ça vous dit quelque chose, non ? Régulé ou dysrégulé ? Régulateur ou dysrégulateur ? Un adulte, un parent, un enseignant qui est épuisé, dépassé, stressé, il aura plus de mal à réguler un enfant. Qui plus est, 25 enfants. Dans quel état il est l'arbre de la régulation d'une famille dysrégulée, au chômage, avec de l'alcool, avec etc., etc. Mais aussi, dans quel état se trouve l'arbre de régulation de certains chefs d'État ? Intéressant. Hein ? L'arbre de régulation du monde, de nos sociétés. Et si nous prenons justement l'exemple du harcèlement, dans quel état est son arbre à lui ? Mais aussi celui de ses complices, des spectateurs, du groupe entier, celui de l'élève cible. Alors vous allez me dire, mais d'où viennent ces dysrégulations ? C'est un vaste sujet. Dysrégulé par qui ? Par quoi ? On a des indicateurs quand même. On a des symptômes, des clignotants. Je signale qu'aujourd'hui, les violences intrafamiliales sont en France la cause première des incarcérations. Il y a 18 interventions policières par heure en France pour des violences intrafamiliales. Ne comptons pas celles où on n'intervient pas, hein, qui doivent être décuplées. Un féminicide tous les 2 jours et demi. Un enfant victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes en France. J'ai bien dit toutes les 3 minutes en France. On évalue cela à 3 enfants par classe, 439 par jour. 2 millions de seniors sont sous le seuil de pauvreté. La population carcérale aujourd'hui en France est 78 000 détenus, avec une densité de population dans certains établissements qui va de 127% à 200%. Régulateur ou dysrégulateur. Un enfant qui assiste à ces violences dont je parlais, ce n'est pas un spectateur, c'est une victime fortement dysrégulée. Pourquoi ? Parce que sa première base de sécurité, qui est dans sa famille, là où véritablement ça doit être le lieu le plus sécur au monde, sa première figure d'attachement, qui est sa mère, elle est menacée. Dans son cerveau de petit humain, cette violence-là, elle est aussi impactante qu'une déclaration de guerre. D'où ça vient tout ça ? D'où vient cette souffrance ? D'où vient cette dysrégulation ? Un mot sur les crèches en France. Sans généraliser, bien sûr. Sans manquer de respect à celles qui y travaillent et dont la souffrance éthique est souvent énorme, immense. Il y a en France 460 000 100 établissements dédiés à l'accueil de la petite enfance. Plus de 20% des enfants de moins de 3 ans sont gardés en crèche. Depuis plus de 20 ans, elles deviennent de plus en plus des structures privées. Je vous signale qu'il y a aujourd'hui une enquête parlementaire sur le modèle économique et l'accueil des jeunes enfants au sein de ces établissements, avec des dysfonctionnements notoires. Autant de carences Autant d'injures développementales, ça a été dénoncé il y a quelques années sur les EHPAD, sur les crèches, c'est exactement le même rapport. Quel est le prix social de cette maltraitance-là? Les enfants sont des gens sérieux, vous savez. Ils ont un détecteur de discrimination, d'injustice, un radar émotionnel extrêmement puissant. Aujourd'hui, dans ces établissements en France, 10 000 postes sont vacants. 10 000 postes sont vacants. Ça veut dire quoi? 10 000 présences régulatrices qui manquent pour des enfants qui ont un besoin impérieux, urgent, et dont le développement futur en dépend. Aujourd'hui, dans le nord de la France, il y a 1200 enfants qui n'ont pas de place en famille d'accueil. Mais il y a des structures privées qui s'en occupent maintenant et qui disent « Ah, mais non, on va en trouver. » Et qui facturent à l'État 500, 600 euros par jour. Sans contrôle, sans agrément pour les familles d'accueil, sans vérifier s'il n'y a pas des antécédents sexuels, alcooliques, pas du tout. On place, les éducateurs disent ben, « J'amène un enfant un soir dans une famille d'accueil et je lui dis « Ah, mais c'est que pour ce soir, demain tu changes. » « Ah bon ? » ?»« Oui, demain tu changes. » Puis demain, c'est une autre. Puis après demain, on lui dit « Non, non, mais là, il faut que tu ailles dans l'autre famille. » « Mais je ne les connais pas. » »« Mais c'est comme ça que tu veux faire. » Personnel en burn-out, etc. Cela fait partie, mes amis, du combat de l'endurance. Nommer la vérité. Nommer la vérité. L'UNICEF dit aujourd'hui que nous sommes dans une grande... C'est une attaque aux besoins fondamentaux. C'est une grande entreprise de fabrique de la dysrégulation. C'est des bombes que l'on prépare là. C'est des bombes à retardement. Est-ce que vous voyez le lien entre ce que je viens d'évoquer et l'école, la vie, la société, etc. La société tout entière. Et si nous voyons le lien, parce que nous savons qu'il s'agit de dysrégulation de l'être humain, on ne va plus regarder le harcèlement de la même manière. On peut être un peu plus fort, un peu plus juste dans le diagnostic. Nous sommes au cœur d'une fabrication de masse de dysrégulation. Et le miracle, c'est encore qu'il y en ait qui s'en sortent. Nos arbres de la régulation sont mis à rude épreuve. L'OMS reconnaît aujourd'hui que la santé mentale des populations est la priorité numéro un pour les années à venir. 25 millions d'Européens souffrent d'anxiété, 1 milliard d'individus, dont 14% d'ados sont atteints d'un trouble mental. La consommation d'antidépresseurs bat des records en Europe, etc., etc. L'OMS et l'UNICEF ont appelé en 2021 un appel à tous les gouvernements pour qu'ils mettent en place un plan d'accompagnement parental. Nos sociétés donc produisent de la dysrégulation. Pire encore, elles la programment, elles l'exploitent, elles spéculent. Parce que les entreprises privées qui aujourd'hui cherchent des familles d'accueil au nom du profit en facturant des sommes de 400-500 euros, qu'est-ce qu'elles ont comme simple intérêt? C'est un intérêt spéculatif. Notre, justement, première responsabilité d'adulte, c'est donc de dire, mais comment on consolide l'arbre de la régulation? Est-ce que cette même société, elle peut après s'étonner de retrouver dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos écoles, des êtres dysrégulés, blessés, blessants, apathiques? Je suis mort vivant. Ou alors, autodestructeurs. Je me mutile, je me scarifie. Ou bien, explosif. Au moindre regard, qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes? Et là, c'est parti. Effectivement, les enfants en crèche, c'est des injures développementales. Quand je pleure et que personne ne vient, quand tu me mets dehors en plein hiver pour me recadrer, ce sont des injures développementales, ce que les Américains appellent des ACE, Adverse Childhood Experience, expérience hostile de l'enfance. Et c'est bien la dysrégulation qui frappe aux portes et aux grilles des écoles, des établissements scolaires, sur les réseaux, où les dysrégulés sont en démultiplication incontrôlable et incontrôlée. D'accord? Mais sur la place publique, on va dire en sauvagement, des civilisations. C'est plutôt des jugements moraux qui ne nous apprennent rien sur ce qui se passe. Mais on juge. Ouais, c'est des sauvageons, c'est des... Oui, t'as raison, c'est des sauvageons. Et alors? Et ça vient d'où, ça? Et comment? À les crèches, tu vois pas le problème, ok? La dysrégulation, elle est aussi à l'origine de la violence, qui devient un recours, faute d'autre chose. C'est un mode de régulation. Moi, je me régule en frappant. Moi, je me régule en harcelant. Moi, je me régule en moquant. La bonne nouvelle, mes amis, C'est qu'à partir de ce diagnostic, on peut prévenir, on peut soigner, on peut conforter. Il faut enseigner la régulation, l'autorégulation. Et la non-violence nous donne des outils. Et c'est là où elle est utile. Parce que nous partons de la juste analyse. Les vitamines de la non-violence. Eux, comme empathie, nous sommes équipés pour l'empathie. L'empathie fait des miracles. C'est un levain très puissant. Mais nous sommes dans un système qui désempathise. Pour faire grandir l'empathie en moi, j'ai besoin d'en avoir reçu. De recevoir de l'empathie. Est-ce que vous pensez que ces bébés dont je parlais en crèche, vous croyez qu'ils ont reçu leur dose d'empathie suffisante? Et comment ils vont rendre de l'empathie demain si eux-mêmes n'en ont pas reçu? Ils vont mordre. Ils vont s'exprimer différemment. Pourquoi je vais donner de l'empathie? Comment je pourrais donner de l'empathie si moi je n'ai pas reçu de l'empathie? À ce harceleur de 14 ans, quand il avait 3 ans, 6 ans, 7 ans, qui lui a donné cette empathie? Qui l'a aidé à réguler son arbre? Empathie pour tous. Et l'empathie, c'est dire à quelqu'un, je ne suis pas en colère contre toi, je suis en colère pour toi. Voilà une manière empathique de miser sur cette intelligence empathique, le pas de côté qu'on appelle en environnance. Je donne une attitude sécurisante qui peut accompagner la sanction si elle est nécessaire. Mais quand je dis, je ne suis pas en colère contre toi, je suis en colère pour toi, mon ami. Ça veut dire que je te dis mon désaccord. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, tes comportements. Je pose des limites, mais j'exprime ma confiance en toi. Je suis en colère pour toi parce que tu peux mieux faire. Je compte sur toi, d'accord? Tu en es capable. Et là, vous enclenchez un processus de confiance. L'empathie, ça commence comme ça. C'est juste une petite feuille. La deuxième vitamine, c'est C comme CLV, communication non violente. Apprenons à nettoyer notre langage comme nous nettoyons nos mains. Parce que les mots peuvent être très, très toxiques. Quand je parlais de malbouffe verbale, mentale, comportementale, voilà un vrai semencier pour la violence. Un immense foyer de toxicité. Hein. CNV, communication non violente. Mais on pourrait dire aussi comme nous vivons. Comme nous vivons. Comme nous vivons, nous parlons. Comme nous parlons, nous vivons. Dis-moi quels sont les mots que tu emploies. J'aurai un petit portrait de l'écosystème dans lequel tu vis, dans ta famille. Un féminicide, ça commence par des mots. C'est un mot. Puis deux mots. Trois mots. Et puis un geste. Et puis une liberté que je me donne. Et puis etc. Le harceleur, il est monolingue, on dit en communication non violente. Il ne connaît que la langue chacal. Vous voyez ces deux marionnettes que j'amène dans tous les lycées qui sont d'une pédagogie que vous connaissez sans doute, qui sont extrêmement puissantes. Le chacal et la girafe. La langue chacal qui est toxique, dévastatrice. D'ailleurs, si dans ma famille, on est monolingue, on ne parle que chacal, comment voulez-vous que je parle? Moi, quand je demande un verre d'eau, je dis pas c'est... Oui, on va me chercher un verre d'eau, mais je suis folle, toi là-bas. Oh. C'est comme ça, je parle. Et là, je viens de commettre un attentat relationnel qui se répète tous les jours. C'est comme ça, je parle. Bon, on ne mange pas encore. Je ferais bien peut-être de participer, le chacal. Et le chacal, quand il n'est pas heureux, c'est toujours la responsabilité des autres. La langue girafe, par contre, elle est tout autre. Il faut grande force girafe, quelquefois. Après les interventions d'Oumani, je me souviens d'un président de club de football qui disait à ses joueurs professionnels, « Il me faut des girafes dans mes vestiaires. Hein. Il nous faut des girafes dans les tribunes. » Effectivement. D'accord. Mais aujourd'hui, je connais des proviseurs qui reçoivent leurs élèves avec un chacal et une girafe. Je vous jure, c'est une balance extraordinaire. Et il demande à chacun, tu penses qu'on est où là? On est chacal ou girafe là? Tu peux répéter ce que tu as dit ou ce que... Et là, je vois où je me situe. Et quand vous entendez un élève qui dit, monsieur, je suis un vrai chacal, il a fait un progrès immense. Ah, si tu te reconnais déjà, tu as fait un grand progrès. Si tu te reconnais dans ce... etc. Donc, où sommes-nous, chacal ou girafe? Toxique ou régulateur? Et nos élèves sont capables de dire... Je vais être une girafe, monsieur. Je vais changer. Je vais être différent. D'accord? Puis des fois, il faut aussi des cris de girafe. Comme tu me fatigues un peu trop. Stop! Tu arrêtes avec moi. Je ne vais pas porter ton sac à dos tous les jours. C'est un cri de girafe. Communication non-violente avec les parents. Les parents ont besoin aussi d'aide. Vous savez, quand les ados sont en crise, Les parents sont en clash. Vous avez un problème d'ado dans un lycée, les parents ne savent pas partir, etc. Il faut leur dire aux parents, inquiétez-vous quand votre enfant est harcelé, mais inquiétez-vous encore plus quand votre enfant est harceleur. Bref, je connais des dizaines de CPE qui disent, depuis que j'ai découvert ces outils, il y a un avant et un après. C'est vous dire l'efficacité. Il y a un avant et un après. Je n'ai plus les mêmes élèves. Troisième vitamine, intelligence émotionnelle. Parce que vous savez, nous avons deux esprits. Un qui pense et l'autre qui ressent. L'esprit rationnel et l'esprit émotionnel. Donc, apprenons à gérer nos émotions. Ce n'est pas simple. On a longtemps cru que les émotions, par exemple, en classe, c'était gênant pour les profs. Ou même dans les familles, il n'y a pas de... OK. S'intéresser à elles serait secondaire. Mais les émotions, elles sont en nous, mes amis. En permanence, elles agissent en nous. C'est notre météo intérieur. Et quand je suis en colère, quand je me suis disputé avec quelqu'un, je ne suis plus le même. Et c'est de cela dont dépend le climat dans ma famille, pendant le repas, le dimanche, le soir, etc. Bref, notre météo intérieur. Daniel Goleman, qui est un des grands spécialistes de la communication, de l'intelligence émotionnelle, il dit, vous savez, on mesure souvent le quotient intellectuel. On ne mesure jamais le quotient émotionnel. Et pourtant, c'est un facteur d'excellence qui est supérieur au quotient intellectuel. C'est un facteur de réussite. Le premier facteur de réussite, c'est l'intelligence émotionnelle. Mais nous ne sommes pas, d'abord, on ne nous forme pas à l'intelligence émotionnelle et nous ne sommes pas très intelligents avec nos émotions. D'accord? Je me souviens, hier, j'entendais le témoignage d'une maman qui disait, je vais à la crèche et la puéricultrice me dit, alors, vous venez chercher votre crapule. Mais madame, ma crapule s'appelle Sofiane. S'appelle pas crapule. Intelligence émotionnelle. Bien sûr, peut-être que ce matin, Sofiane, il a fait des bêtises. OK. Peut-être qu'il a... OK. Comment gérer, entre autres? Dire à quelqu'un, tu as droit à toutes les émotions, tu n'as pas droit à tous les comportements. Ah, ça, c'est une manière intelligente. Oui, mais tu as droit à toutes les émotions, tu peux avoir envie de tuer tout le monde. Tu n'as pas droit à tous les comportements, on est d'accord? Voilà une invitation à se réguler. Tu as droit à toutes tes colères, tu n'as pas droit à toutes les addictions, à tous les actes. Voilà une attitude régulatrice. Tes émotions, d'accord, je peux les comprendre. Tu es en colère, tu es en rage contre l'arbitre. OK. Mais je vais te proposer une autre stratégie, quoi. Réguler, poser le cadre. Oui, tu as droit à être. Tu verras, demain, nous avons droit à toutes les émotions, nous n'avons pas droit à tous les comportements. Quatrième vitamine, la régulation du conflit. Il n'y a que dans les systèmes totalitaires qu'il n'y a pas de conflit. Mais nous, dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises, dans la rue, il y aura toujours des conflits. La question, c'est, est-ce que nous sommes vraiment éduqués pour le conflit? Nous associons souvent conflit et violence. C'est une vieille histoire de 8000 ans. Mais le conflit, ça peut être une chance aussi. C'est la violence qui est le poison. Le conflit, ça peut être une chance. Et la non-violence là-dessus, elle nous apprend énormément. Mais si nous ne sommes pas éduqués, si nous ne connaissons que le marteau, qu'est-ce que nous faisons? Nous transformons tous nos problèmes en clous et nous tapons sur les clous. On peut taper sur nos enfants aussi, ou sur notre femme. Mais tous nos problèmes ne sont pas des clous. Est-ce que vous avez déjà essayé d'enlever une écharde dans un doigt avec un marteau? Vous allez voir les dégâts que vous faites. Le conflit peut être une chance. La question n'est pas qui a tort, qui a raison, quel est ton besoin, quel est... La question c'est plutôt quel est ton besoin, quel est mon besoin? En collège, en lycée, dans les familles. Et dans le conflit, je ne confonds pas ton attitude et ta personne. C'est ton attitude qui n'est pas acceptable. Tu as fait une faute, tu n'es pas ta faute. Je distingue ton comportement de la personne respectable que tu es. Vous savez, quand vous allez dans une prison et que vous dites au prisonnier, vous êtes trompé, vous avez fait des fautes, mais vous n'êtes pas votre faute. Vous ouvrez l'horizon, hein. Oui, tu t'es trompé, tu as fait une grosse connerie, si j'ai bien compris, quoi. Mais tu n'es pas ta faute, ad vitam aeternam. Peut-être que tu peux faire un chemin de régulation, autant que faire se peut, puisque ce que tu as fait est très très grave. Tu es responsable de tes actes, mais tu peux peut-être. Voilà des attitudes que l'être humain est capable de comprendre. Miser sur le groupe, bien évidemment. Alors, je voulais illustrer ça par deux moments vécus, ce que je viens de vous dire, parce que c'est ça qui nous intéresse. Figurez-vous que, intellectuellement, la non-violence, ça peut être très intéressant. Mais pour nous, il ne s'agit pas d'organiser des causeries sur la non-violence, mais de dire, nous sommes au cœur d'un véritable combat, les amis. Est-ce que cette non-violence, elle peut nous aider? Ou est-ce que c'est simplement un truc intéressant, intellectuellement, académiquement, la non-violence académique, oui? Alors là, bon, il y a des livres, il y a des grands, ok, il y a des grands exemples, c'est très bien tout ça, bien sûr c'est important. Ce qui nous intéresse, c'est de dire comment, quand elle se frotte au défi d'aujourd'hui, comment elle nous aide. Alors je voulais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Un jour, j'étais dans un collège, il y avait 350 élèves. Je pourrais vous citer des tas d'exemples de ce genre. Et ce jour-là, il y a un élève qui demande la parole et qui dit « Monsieur, je veux dire quelque chose. » Il était tout timide, il prend la parole. Il dit « Moi, monsieur, j'ai demandé à mes parents de déménager. Je voudrais quitter ce collège. » Il avait les larmes aux yeux. Les autres découvraient cet état de fait. « Si tu veux en dire davantage ?»« Oui, monsieur. Je m'appelle Vlad. » Et dans ce collège, tout le monde m'appelle Poutine. Et je demande aux autres, on peut faire quelque chose pour notre camarade, nous on ne peut rien faire. Alors on avait parlé d'empathie, on avait parlé d'intelligence émotionnelle, on avait donné d'autres exemples, on avait parlé de la règle d'or, tu ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ça c'est la règle d'or. Si on mettait ça, tous ceux-là, cette règle d'or dans notre GPS, on change le monde. Je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas que l'on me fasse. Ok. Et là, il se passe un petit miracle. Il y a 3 élèves qui se lèvent, 5 autres, 10 autres, 20 autres, 100 autres, 200 autres. Tout le monde était debout, beaucoup les larmes aux yeux, en train d'applaudir le petit Vlad, qui était en sanglots sur sa chaise. Ça a duré 2 minutes. Les professeurs découvraient le contexte. Ils n'avaient jamais entendu Poutine. Comme quoi, hein, pas tout n'est visible, hein, même quand vous êtes tous les jours dans l'établissement. Il découvrait bien sûr la détresse de Vlad. 2 minutes, au bout de 2 minutes, ça s'est calmé. J'ai dit merci beaucoup. Je vous signale qu'on n'est pas au spectacle, je leur ai dit. Vlad n'est pas un comédien. Il vient de dire des choses qui sont lourdes, son sac à dos pèse très haut. J'espère que vos applaudissements sont des engagements. On est d'accord? Ok, j'y tiendrai parole. 2 mois après, j'ai rappelé la CPE. J'ai demandé, donnez-moi des nouvelles de Vlad. Elle me dit, je vous donne des nouvelles, oui. Il est devenu délégué de classe. Ses résultats scolaires ont fait ça. Et plus jamais personne ne l'a surnommé ainsi. J'ai dit, on n'a pas perdu notre temps ce jour-là. On a tous gagné. Ce qui prouve quoi? Ce n'est pas un problème d'autorité. Ce n'est pas un problème de mauvaise herbe. C'est un problème de prise de conscience. Tout le monde, en 2 heures, s'est reconnecté à la bonne prise. Je prends conscience. Et là, je suis capable de me transformer et de me réguler. Nos élèves sont capables de s'auto-réguler. Encore faut-il leur donner le bon exemple régulateur. Imaginez que je sois arrivé là avec une autre stratégie et que j'aurais commencé à dire « Alors, qui est le coupable ?»« C'est toi ? Ok, tu te mets là-bas. » Qui a participé? Là, tout le collège a participé. Parce que moi aussi, je jouais, vous comprenez? Poutine, oh, c'était tous les matins. 150 Poutine tous les matins. Je vous jure que pour nous, c'était un jeu. Mais pour lui, c'était des coups de poing dans le ventre. Nos élèves sont capables de s'auto-réguler. Pourquoi? Parce que l'empathie, elle est en eux. Même s'ils sont désempathisés. Même s'ils sont dans un monde qui désempathise. Je ne me rends plus compte. Bref. Si les parents, si les enseignants, si l'institution n'entend pas, ne repère pas ou ne protège pas Vlad, qu'est-ce qu'il a comme possibilité, Vlad? Soit il devient victime, il peut même faire une carrière de victime. Toute sa vie. Moi, ils m'ont pourri le collège, etc. Soit il devient violent à son tour. Il n'a que ça comme stratégie. Ou bien... Donc, il est capable de violence ou d'auto-violence. Et des fois, ça finit par des stratégies, des tragédies. Puis nous, on va faire une marche blanche, mais qui n'a rien réglé les problèmes. Et pourtant, nous avons... Qu'est-ce qui rend possible des métamorphoses de ce genre? Il y a plusieurs ingrédients. D'abord, la confiance. Ce jour-là, il a senti que c'était un moment particulier dans le collège. Il y avait des mots qu'il n'entendait pas. Ça ne tient pas à ma personne, ça tient aux outils de la non-violence. Il a trouvé un cadre de confiance, une parole sécurisée. Lui, il s'est dit, ben là, si je parle, lui, il va me défendre. Il y avait un tiers, c'était moi ce jour-là. Il y a eu un réveil empathique de tout le monde. On a valorisé la règle d'or. Il a senti qu'il pouvait se libérer de cette prison. Hein? Tu te tais ou bien tu n'as qu'à blesser les autres. Bref. On ne s'est pas focalisé sur les culpabilités. Pas à qui la faute et puis la sanction. Non, non, pas du tout. On a réinitialisé le disque dur. La régulation, ils sont devenus capables de s'autoréguler. Des exemples de ce genre, j'en ai vécu des dizaines. Ce n'est pas un problème d'autorité, ce n'est pas un problème de fermeté, de règle ou de laxisme, c'est un problème de prise de conscience. Nos élèves sont capables de prise de conscience. Puis le deuxième exemple que je voulais citer, ça s'est passé en 2015. Je vous dis ça parce que c'était dans un contexte où il y avait les attentats islamistes, vous savez, les attentats contre Charlie Hebdo, etc. Et deux semaines après, ils demandaient d'ailleurs aux enseignants de dire « lundi, il faut parler de ça ». Ok. J'avais beaucoup d'amis enseignants qui me disaient « mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte ?» Ça, on ne savait pas trop. D'accord. Hormis le fait qu'on est très triste, qu'on déplore, etc. Et ce jour-là, j'étais dans un lycée de France, devant 300 élèves. Je vais parler de non-violence. Le proviseur m'a dit, vous savez, on est dans un contexte très tendu. Ben, j'ai dit, écoutez, je réfléchis un peu. Et je viendrai, tout de même. La France entière était en deuil. C'était le slogan, je suis Charlie. Puis on entendait aussi, et Charlie, c'est bien fait pour eux. Okay. Ils ont insulté le prophète. Okay. Ils méprisent notre religion. Nous, on ne fera pas la minute de silence. Vous vous souvenez peut-être. Il y avait donc... Charlie, c'est bien fait pour eux, ça veut dire que c'est un vrai défi pour l'intelligence de la non-violence. Je nous demande à tous de réfléchir, qu'est-ce que je dis, moi? Et ce jour-là, inévitablement, ça s'est passé. Comme nous pouvions l'imaginer, il y a un élève qui a levé le doigt, il m'a dit, ouais, vous parlez, vous racontez des belles histoires, monsieur, mais vous ne parlez pas de ce qui se passe maintenant. Hein. Pourquoi vous n'en parlez pas, monsieur? Bah, j'ai dit, on va en parler. Je voulais dire quelque chose. C'est un vrai défi. Qu'est-ce que je dis? Charlie, c'est bien fait pour eux, ils l'ont cherché, ils se sont moqués du prophète, etc. Vous voyez la situation. Comment vous gérez ça? Bon, généralement, si je ne suis pas trop équipé, je lui dis, écoute, tu te lèves, tu vas chez le proviseur, tu dégages. Est-ce que j'ai réglé le problème? Est-ce que j'ai régulé cet élève? Absolument pas. Et est-ce que j'ai régulé le un tiers de la salle qui applaudit ou qui est d'accord? Pas du tout. Je n'ai rien réglé du tout. On aurait pu dire, ok. Alors, je l'ai laissé s'exprimer et puis j'ai dit, tu as terminé? J'ai dit, d'abord, je te remercie. Ah ouais, ça l'a étonné. Puisque tu dis ouvertement ce que tu as sur le cœur, j'ai bien compris que tu n'es pas un comédien. Tu as exprimé. Tu m'as dit que tu étais musulman. Oui. Ben, tu vois, je ne suis pas musulman et je n'ai pas besoin de l'être pour comprendre que tu puisses te sentir blessé par une caricature. Je n'ai aucun problème avec ça. Pas du tout. Mais quand même, entre un stylo et une kalachnikov, est-ce que tu vois la différence? Oui, d'accord, mais c'est bien fait pour eux. Ok. Et alors, j'essaie d'imaginer le pas de côté de la non-violence. Vous savez, quand on vous dit A ou B, la non-violence, elle sert toujours le C. C'est noir ou blanc. Nous, on va chercher autre chose. Et j'ai dit, imaginons que dehors de ces événements, il se soit agi de ton frère, de ton meilleur ami, de ta sœur. Je vous rappelle que les 7, 8 et 9 janvier 2015, 20 personnes ont perdu la vie. 17 victimes innocentes. Et 3 tireurs qui ont fini par mourir eux aussi. J'ai dit donc, s'il s'agit de ton frère, de ton meilleur ami, tu préférerais le savoir dans la situation de celui qui a tué ou de celui qui a été tué, sachant qu'au final, ils sont tous morts. Il m'a dit, vous pouvez répéter la question. Mais il s'est passé quelque chose dans sa tête. J'avais proposé le pas de côté. Je ne vais pas me laisser piéger dans ton binaire, noir ou blanc. J'ai reposé la question. Tu aurais préféré que ton frère soit celui qui a tiré ou que ce soit plutôt le monsieur qui faisait ses cours avec son petit enfant ou... Au bout de 5 minutes dans cette salle, nous étions tous d'accord. Je préfère que mon frère soit dans le rôle de la victime innocente plutôt que dans celui du tueur. Du meurtrier qui lui aussi a perdu la vie. Je préfère que mon rôle soit dans le rôle de la victime. Ce rôle est beaucoup plus honorable, beaucoup plus digne. Ne pas être les tueurs, ne pas ôter la vie à quelqu'un, ou ôter la vie à quelqu'un, c'est l'échec le plus total du projet humain. Devenir meurtrier, c'est la plus grande défaite de l'être humain. Il n'y a pas une idéologie, un dogme, un catéchisme, une religion qui peut justifier que tu portes atteinte à la vie de ton prochain. Le meurtre n'est pas négociable. Le meurtre n'est pas justifiable. Tu as droit à toutes tes colères. Tu as droit à te sentir. Mais tu n'as pas droit à tous les actes, à tous les comportements. Et surtout pas à celui-là. Notre choix, nous tous, c'est de sortir. Hein. Alors, victime ou bourreau, qu'est-ce que tu préfères? Vous préférez être victime ou bourreau? Ni l'un ni l'autre, mes amis. La non-violence, c'est éviter à la victime d'être une victime, mais aussi au bourreau d'être un bourreau. Il y a mieux à faire, non? Mieux à faire pour l'humanité. Et un troisième choix. Et là, je vous dis, on est ressorti apaisé de ces deux heures-là. Et c'est dans des situations de ce genre que l'on peut saisir tout le pouvoir transformant. Ni sanction, ni punition, ni démission, ni exclusion. On a dépassé le cadre. Et c'est là où je me dis encore plus, équipement de vie ou équipement de mort? Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous donnons autour de nous? Et si nous sommes là ce soir, c'est justement parce que nous pouvons agir avant les agressions, avant les violences, en prévention, et autant que possible avant les armes et les kalachnikovs. Il est donc possible de détoxer, de réguler. Et ça s'apprend. Vous savez, après l'assassinat de Dominique Bernard, il y a eu des cérémonies dans des lycées. Il y a des lycées où on n'a pas pu faire ces cérémonies. D'accord? Il y a eu en France 605 sanctions prononcées contre des élèves. Il y a eu 322 exclusions temporaires et 85 exclusions définitives d'un établissement. Ce sont les chiffres de l'Éducation nationale. Est-ce que vous croyez que cette réponse de l'exclusion, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est régulatrice? Est-ce qu'on a vraiment régulé? Pas sûr. Comment est-ce qu'on peut offrir justement une troisième voie à ces 605 lycéens, à ces 85 définitivement exclus? C'est-à-dire 85 dysrégulés qui sont dans la nature, dont personne ne va s'occuper. Hein. Sauf le soir où ils vont faire la première connerie, et bon, peut-être, etc. C'est-à-dire autant de candidats à la chapka latitude, avec tout ce que ça peut accomplir comme dégâts, comme tragédie, comme recours à la violence, etc. Quelle régulation on peut leur offrir? Eh bien justement, le bistouri de la non-violence, comprendre ton monde intérieur, tes cerveaux mécanismes, démythifier la violence. Si nous ne régulons pas ces lycéens, ce sont d'autres qui vont s'occuper de l'aide, qui vont s'occuper d'eux, qui vont abuser de leur dysrégulation, de leur vulnérabilité. La dysrégulation n'est en rien une excuse, bien sûr, mais elle est une clé. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la connaissance. Nous avons tous les outils qui nous permettent d'être conscients d'abord de cette dysrégulation. On peut la mesurer, OK. Et nous avons les outils pour réguler, justement, notre climat intérieur, éventuellement le climat de la planète aussi, consolider ce triple lien dont je parlais. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes des millions à vouloir comprendre notre monde, l'influencer, donner du sens. La violence n'est pas notre nature. La violence est la conséquence de cette dysrégulation. Voilà ce que c'est la violence. Elle est la conséquence de cette dysrégulation, mais il n'est pas trop tard. Et l'éducation, c'est ça. Planter et consolider l'arbre de l'autorégulation en chacun de nous. Et ça s'apprend. Et les outils de la non-violence, ils sont précieux pour ça. D'ailleurs, nos arbres de la régulation, il ferait bien de s'inspirer des régulateurs qui nous entourent. Les régulateurs qui nous entourent, ça peut être un papa, une maman, un CPE, une assistante sociale, un concierge, un citoyen, un enfant médiateur, un éducateur sportif, une association, un policier de proximité, qui peuvent être des régulateurs merveilleux, mais aussi les grands régulateurs de notre histoire. L'arbre de régulation de Rosa Parks, de Martin Luther King, de Gandhi, de John Hume en Irlande, de Nelson Mandela, des milliers de militants non-violents qui formaient à la non-violence, qui ont fait tomber le mur de Berlin. Ça, c'est des exemples de régulateurs incroyables, ça peut nous inspirer. Quelle solidité de de leur arbre de la régulation. Savoir lire donc cette interconnexion entre la dysrégulation intérieure et la dysrégulation de nos sociétés. Le jour où l'on comprendra que la source de la violence dans le monde n'est ni la religion, ni la nature humaine, ni la fatalité, mais l'exclusion, la douleur limite, la dysrégulation, on aura fait un grand pas. Un peu comme Louis Pasteur, vous savez, qui avait identifié le déclencheur de la maladie, il dit c'est des bactéries, on a découvert, etc. Et là, on peut agir beaucoup plus efficacement. Et c'est là où le recours aux outils de la non-violence peuvent être d'une efficacité redoutable. Question, qui investit dans la non-violence aujourd'hui? Nous sommes des milliers déjà. Et nous pouvons être encore plus nombreux. Et c'est bien ça le challenge. Si les outils de la non-violence étaient aussi disponibles que le sont les armes aujourd'hui, si cette conscience de la dysrégulation n'était pas déguisée, maquillée, effacée ou disparue sous c'est les religions, c'est le truc, c'est ça. Je vous jure, on aurait une autre conscience de notre réalité. Merci beaucoup.